Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur. Première cassette, deuxième face, page 23. Sans plus attendre, Jean tira de sa poche la vieille bourse en cuir toute rapiécée qui y avait mise sa mère, s'assit à la porte de la chapelle, fit asseoir Jeannot près de lui, vida la bourse dans sa main et commença le partage. Un franc pour toi, un franc pour moi. Il continua ainsi jusqu'à ce qu'il eût versé dans les mains de Jeannot la moitié de son trésor qui montait à 8 francs 25 centimes pour chacun d'eux. À cette époque, l'argent valait beaucoup plus qu'aujourd'hui et 8 francs 25, de l'époque, ça fait à peu près 160 francs d'aujourd'hui. Jeannot remercia son cousin avec un peu de confusion. Il prit l'argent, le mit dans sa poche.
« J'ai 2 francs de plus que toi, dit-il. »«
Comment cela ? J'ai partagé bien exactement, dit Jean. »«
Parce que j'avais 2 francs que m'a donné le curé. »«
Ah, c'est vrai ! Te voilà donc plus riche que moi. Tu vois bien que tu n'es pas si malheureux que tu le disais. »«
J'en sais rien. J'ai du guignon. J'ai pas de chance. Un voleur viendra peut-être m'enlever tout ce que j'ai. »
« Tu ne croyais pas être si bon prophète !» dit une grosse voix derrière les enfants.
Les enfants se retournèrent et virent un homme jeune, de grande taille, aux robustes épaules, à la barbe et aux favoris noirs et touffus. Il les examinait attentivement. Jean sauta sur ses pieds et se trouva en face de l'étranger.
« Je ne crois pas, monsieur, que vous ayez le cœur de dépouiller 2 pauvres garçons obligés de quitter leur mère et leur pays pour aller chercher du pain à Paris parce que leurs parents n'ont plus de pain à leur donner. »
L'étranger ne répondit pas. Il continuait à examiner les enfants. « Au reste, monsieur, voilà tout ce que j'ai, continua Jean. 8 francs 25 centimes que nos amis m'ont donné pour mon voyage. » L'étranger prit l'argent de la main de Jean.
Et avec quoi vivras-tu jusqu'à ton arrivée à Paris?
Le bon Dieu me donnera de quoi, monsieur, comme il l'a toujours fait.
Et toi, dit l'étranger en se tournant vers Jeannot, qu'as-tu à me donner?
Jeannot tomba à genoux.
Je n'ai rien, rien de que ce qu'il me faut tout juste pour ne pas mourir de faim, monsieur. Pitié pour mon pauvre argent, pitié, au nom de Dieu.
Pas de pitié pour l'ingrat, le lâche, l'avide, le jaloux. J'ai tout entendu, donne vite.
L'étranger mit sa main dans la poche de Jeannot et enleva les 10 francs 25 centimes qui s'y trouvaient. Jeannot se jeta à terre et pleura. Monsieur, dit Jean, touché des larmes de son cousin et un peu ému lui-même de la perte de sa fortune, ayez pitié de lui, rendez-lui son argent.
Pourquoi le lui rendrais-je à lui et pas à toi ?
Parce que moi j'ai du courage, monsieur, et lui est faible. C'est le bon Dieu qui nous a fait comme ça. Ce n'est pas par orgueil que je le dis.
Tu es un bon et brave petit garçon, et nous en reparlerons tout à l'heure. Où allez-vous ?
À Paris, monsieur.
C'est donc bien décidé ? Et comment y arriverez-vous sans argent ?
Oh, monsieur, je n'en suis pas inquiet. De même que nous avons eu le malheur de vous rencontrer, de même, nous pouvons rencontrer une bonne âme, charitable, qui nous viendra en aide. L'étranger sourit et ne put s'empêcher de donner une petite tape amicale sur la joue fraîche de Jean.
Ton camarade n'en dit pas autant, ce me semble.
C'est qu'il est terrifié, monsieur. Il a toujours peur, ce pauvre Jeannot.
Oh ! Il s'appelle Jeannot ? Beau nom, bien porté. Et toi, quel est ton nom ?
C'est Jean, monsieur.
Un vrai beau nom, celui-là. Et tu me fais l'effet de devoir faire honneur à tes saints patrons. Allons, Jean et Jeannot, marchons. Je vais vous escorter de peur d'accident. Tiens, mon brave petit Jean, voilà tes 8 francs 25 centimes. auquel j'ajoute 20 francs pour payer ton voyage. Et toi, pleurard, poltron de Jeannot, voilà tes 10 francs 25 centimes auxquels j'ajoute la défense de rien recevoir de gens. Si j'apprends que tu as encore accepté un partage, tu auras affaire à moi. Suivez-moi tous les deux. Je vais vous faire déjeuner à Auray. A-U-R-A-Y. Nous n'en sommes pas éloignés.
Oh, monsieur, vous avez bien de la bonté. Je vous suis bien reconnaissant. Je ne sais comment vous remercier, monsieur.
Oh, en mangeant de bon appétit le déjeuner que je vais te donner, mon petit Jean.
Tiens, vous dites comme maman, petit Jean. Et les yeux de petit Jean se mouillèrent de larmes en pensant à sa maman. Chapitre 3. Le voleur se dévoile. Les enfants suivirent l'étranger. Jean remerciant le bon Dieu et la Sainte Vierge de la rencontre d'un si bon, si riche et si généreux voleur, et Jeannot déplorant son guignon, sa malchance, et enviant le bonheur de Jean. Pendant le trajet d'une lieue, 4 kilomètres, qui séparait la chapelle de la ville, l'étranger chercha à faire causer les enfants. Jean surtout lui plaisait singulièrement. Jeannot, mécontent de ne pas avoir eu comme son cousin une gratification du voleur, répondait à peine et se plaignait de la fatigue, de la chaleur, de la longueur de la route.
« Je ne t'oblige pas à me suivre, » répondit l'étranger. « Pleurnicheur, reste en arrière si tu veux. »«
Que je reste en arrière pour que les loups me mangent. »
Les loups, au mois de juillet, en plein soleil.
Il n'y a pas de soleil qui tienne. Les loups n'ont pas peur du soleil. On en a vu deux dans le village à côté et il n'y a déjà pas si longtemps.
Bon, tu as pris des chiens pour des loups.
Ce n'est pas moi seul qui les ai vus. C'est bien d'autres. Un loup énorme, noir, à tête grise, qui n'est pas farouche et qui a regardé déjeuner le garde-chasse à 20 pas de sa maison. Et puis, une grosse louve grise qui vous regarde en face, qui vous barre le passage et qui vous a l'ami d'une bête affamée, toute prête à vous dévorer.
Oh, c'est la peur qui t'a fait voir tout cela. Toi, Jean, as-tu vu ces terribles bêtes?
Pas moi, monsieur, mais Jeannot dit vrai. Bien des personnes les ont vues. Un cousin de monsieur le maire, qui chassait, a vu le loup et a couru après. L'institutrice de mademoiselle a vu la louve, qui l'a suivie longtemps. Et puis, Daniel, le garde-chasse de monsieur, a rencontré le loup qui a eu peur et qui a traversé à la nage le bras de mer de Kermadio. K-E-R-M-A-D-I-O. Après quelques instants de silence et de triomphe pour Jeannot, l'étranger se mit à questionner Jean sur sa mère. L'intérêt qu'il semblait prendre à la conversation enhardit Jean. Il dit à l'étranger avec quelque hésitation. « Monsieur, voudriez-vous me rendre service, mais un bien grand service ?»«
Très volontiers, si c'est possible, mon ami. Mais comment me le demandes-tu à moi que tu connais à peine ?»
Parce que vous avez l'air très bon, monsieur, et parce que je vois que vous me portez intérêt et que vous seriez bien aise d'obliger encore un pauvre garçon que vous avez déjà obligé.
Très bien, mon ami, très bien. Je crois que tu as deviné juste. Quel service me demandes-tu?
Voilà, monsieur, c'est de reprendre les 20 francs que vous m'avez donnés et de les porter à maman. Vous lui direz que c'est son petit Jean qui les lui envoie et que c'est vous qui me les avez donnés. » Et Jean cherchait sa bourse pour retirer la pièce d'or. La pièce d'or, c'était la pièce de 20 francs, et je te rappelle que l'argent autrefois valait beaucoup plus que maintenant.
« Attends, mon garçon, laisse tes 20 francs dans ta bourse, il n'y a pas besoin de te presser. Et d'abord, puisque je suis un voleur, ne crains-tu pas que je te vole mon argent ?
Oh non, monsieur, D'abord, vous n'êtes pas un voleur puisque vous donnez au lieu de prendre. Et puis, vous seriez un voleur pour tout le monde que vous ne le seriez jamais pour moi.
Pourquoi donc ?
Parce que vous m'avez fait du bien, monsieur. On s'attache aux gens auxquels on a fait du bien. Et il me semble qu'on n'a plus jamais envie de leur faire du mal.
Écoute, mon brave petit Jean, je ferai bien volontiers ta commission, mais je ne sais pas où trouver ta mère.
À qui rentrer ? K-E accent aigu, R-A-N-T-R-E accent aigu. Vous demanderez la veuve Hélène, la mère du petit Jean. Tout le monde vous l'indiquera.
Mais mon ami, je ne sais pas où est Quérentré.
Comment ? Vous ne connaissez pas Quérentré ? Bah, demandez à Kénispère, K-E accent aigu, N-I-S-P-E accent grave, R-E. Tout le monde connaît ça.
Mais je ne sais pas davantage où est Kénispère.
Vous ne connaissez pas Kénispère, près d'Auray, A-U-R-A-Y, et de Sainte-Anne.
Je ne connais rien de tout cela.
Ni le sanctuaire de Madame Sainte-Anne.
Ni le sanctuaire.
Ni la fontaine miraculeuse de Madame Sainte-Anne.
Ni la fontaine, ni rien de Madame Sainte-Anne.
Mais vous n'êtes donc pas du pays, monsieur ?
Non, je ne suis arrivé qu'hier soir. Je suis descendu à Auray, à l'hôtel, et je me promenais pour voir le pays, qu'il m'a semblé joli, lorsque je t'ai vu entrer à la chapelle. Je t'y ai suivi et me suis placé dans un coin obscur. Tu priais avec tant de ferveur et tu pleurais si amèrement que j'ai de suite pris intérêt à toi. Tu as parlé haut en priant et ce que tu disais a augmenté cet intérêt. Ton cousin est venu, j'ai entendu votre conversation. J'ai fait le voleur pour vous donner une leçon de prudence. Il ne faut jamais compter son argent sur les grandes routes ni dans les auberges ni devant des inconnus. Je viens dans le pays pour voir l'église de Sainte-Anne qui va être reconstruite. Je veux voir le vieux sanctuaire avant qu'on le détruise.
J'avais donc raison, vous n'êtes pas un voleur. Je l'avais deviné bien vite à votre mine. Mais monsieur, puisque vous restez dans le pays, voulez-vous tout de même donner à maman les 20 francs que voici ? Jean lui tendit les 20 francs. L'étranger sembla hésiter. Mais il les prit, les remit dans sa poche et serra la main de Jean en disant
« Ils seront fidèlement remis, je te le promets. »«
Merci, monsieur, » répondit Jean tout joyeux. Ils continuèrent leur route. Jean gaiement, l'étranger avec une satisfaction visible, témoignant d'une grande complaisance pour son petit protégé, et Jeannot, triste et ennuyé du guignon qui le poursuivait, et qui le mettait toujours au-dessous de Jean.
« Voyez, pensait-il, cet étranger, qui ne le connaît pas plus qu'il me connaît, se prend de goût pour lui, et moi, il ne m'aime pas. Il appelle Jean mon ami, mon brave garçon, et moi, il me dit pleurnichard, pleurnicheur, jaloux. Il cause avec Jean, il semblerait qu'ils se connaissent depuis des années, et moi, il ne me parle pas, il ne me regarde seulement pas. C'est tout de même contrariant, ça m'ennuie à la fin. À Paris, je tâcherai de me séparer de Jean et de me placer de mon côté. »
Ils arrivèrent à la ville. Il était 10 heures du matin. L'étranger les mena à l'hôtel où il était descendu. Il fit servir un déjeuner bien simple mais copieux. Ils mangèrent du gigot à l'ail, une omelette au lard, de la salade et ils burent du cidre. Quand le repas fut terminé, l'étranger se leva.
« Jean, dit-il, quand tu seras à Paris, tu viendras me voir. Je te laisserai mon adresse. J'y serai dans 8 jours. Où logeras-tu ? » ?»«
Je n'en sais rien, monsieur. C'est comme le bon Dieu voudra. »«
Où demeure ton frère Simon ? » ?»«
Rue Saint-Honoré, numéro 263. »«
C'est bien. Je ne l'oublierai pas. Montre-moi donc ta bourse que je vois si ton compte y est. »
Jean la lui présenta sans méfiance.
« Jean, dit l'étranger, veux-tu me faire un présent ?»«
Bien volontiers, monsieur, si j'avais seulement quelque chose à vous offrir.
Eh bien, donne-moi ta bourse, je te donnerai une des miennes.
Très volontiers, monsieur, si cela vous fait plaisir. Elle n'est malheureusement pas très neuve. C'est monsieur le curé qui l'a donnée à maman pour mon voyage. L'étranger prit la bourse après l'avoir vidée.
Attends-moi, dit-il. Je vais revenir.
Il ne tarda pas à rentrer, tenant une bourse solide en peau grise avec un fermoir d'acier. Il reprit la monnaie de Jean, la remit dans un des compartiments de la bourse, mit dans un autre compartiment le papier sur lequel il avait écrit nom et adresse, et la donna à Jean en lui disant tout bas, de peur que Jeannot l'entendît.
« Tu trouveras tes 20 francs dans un compartiment séparé. N'en dis rien à Jeannot, je te le défends. »
« Je vous habillerai, monsieur, pour vous témoigner ma reconnaissance, mais j'aurais préféré que vous les eussiez gardés pour pauvre maman. »«
Ta maman les aura. Sois tranquille. Chut ! Ne dis rien. Adieu, mon petit Jean. Bon voyage !»
L'étranger serra la main de Jean et fit un signe d'adieu à Jeannot. Il le remit encore un petit paquet et il se sépara d'avec ses 2 enfants, dont l'un ne lui plaisait guère et dont l'autre lui inspirait un vif intérêt. Quand ils furent partis, l'étranger se mit à réfléchir.
« C'est singulier, dit-il, que cet enfant m'inspire un si vif intérêt. Sa physionomie ouverte, intelligente, douce, franche et résolue m'a fait une impression très favorable. Et puis, j'ai des remords de l'avoir effrayé au premier abord. Ce pauvre enfant! Avec quelle candeur il m'a offert tout ce qu'il possédait. C'était mal à moi. Et l'autre me déplaît énormément. Énormément. Je suis fâché qu'ils voyagent ensemble. Je les retrouverai à Paris. J'irai voir le frère Simon, je veux savoir ce qu'il est, celui-là. Et si je le soupçonne mauvais, je ne lui laisserai pas mon petit Jean. Il gardera l'autre, le Jeannot, s'il veut. J'ai fait un échange de bourse qui profitera à Jean. La sienne est décousue et déchirée partout. C'est égal, je veux la garder. Cette aventure me laissera un bon souvenir.
Chapitre 4. La carriole et Kersac. K-E-R-S-A-C. Jean et Jeannot marchèrent quelque temps sans parler.
Dis donc, Jean, dit enfin Jeannot. « Combien crois-tu qu'il nous faudra de jours pour arriver à Paris ?»«
Je n'en sais rien, je n'ai pas pensé à les compter. »«
À combien ferons-nous de lieues par jour ou de kilomètres ?»«
5 à 6 lieues, 20 à 24 kilomètres, je crois. »«
Mais cela ne nous dit pas combien il y a de lieues ou de kilomètres d'ici à Paris. »«
Nous aurions dû demander au monsieur voleur, il nous l'aurait dit. »
Bon, il n'en sait pas plus que nous, ces gens riches. Ça voyage en voiture. Ils ne savent pas seulement le chemin qu'ils font.
Une carriole attendait tout attelée devant une maison que les enfants allaient dépasser. Un homme sortit de la maison et s'apprêta à monter dans la carriole.
Monsieur, dit Jean en courant à lui et en ôtant poliment sa casquette, pouvez-vous nous dire combien nous avons de lieues d'ici à Paris ?
« D'ici à Paris ? Mais tu ne vas pas à Paris, mon pauvre garçon. »«
Pardon, monsieur, nous y allons, Jeannot et moi, pour rejoindre Simon et pour gagner notre vie. Et nous voudrions savoir s'il y a bien loin et combien il nous faudra de jours pour y arriver. »«
Miséricorde ! Répondit l'homme. Mais vous ne comptez pas y aller à pied. »«
Pardon, monsieur, il le faut bien. » Nous n'avons pas les moyens d'y aller dans une belle carriole comme vous.
Mes petits malheureux, savez-vous ce qu'il y a d'ici à Paris ? 120 lieues, 480 kilomètres.
Ah, dit Jean, c'est beaucoup. Mais nous y arriverons tout de même. Bien merci, monsieur. Pardon de vous avoir dérangé.
Il n'y a pas de dérangement, mon ami. Mais j'y pense. Je vais à Vannes, V-A-2-N-E-S. « Montez dans ma carriole, c'est votre route, et ça vous avancera toujours de 4 lieues, car vous n'êtes guère à plus d'une lieue d'Auray. »«
Merci, monsieur, ce n'est pas de refus.
Alors montez vite et partons, je suis pressé. »
Jean grimpa lestement et fit grimper Jeannot qui n'avait pas dit une parole. Jean se mit près du maître de la carriole. Jeannot se plaça dans le coin le plus reculé. Le brave homme qui recueillait les petits voyageurs fouetta son cheval et on partit au grand trot. Jean était enchanté, il n'avait jamais roulé si vite. Jeannot semblait effrayé, il se cramponnait aux barres de la carriole. Le conducteur se retourna, regarda attentivement Jeannot et dit à Jean
« Ton camarade est muet, ce me semble !»
Jean rit de bon cœur.
« Muet, pour cela non, monsieur, il a la langue bien déliée. Il ne dit rien, c'est qu'il a peur. »«
Peur de qui et de quoi ?»«
Ah, j'en sais rien, monsieur, il a toujours peur. »
« Jeannot, réponds donc à ce monsieur qui a la politesse de s'inquiéter de toi. »«
Que veux-tu que je dise ? Moi, je ne peux pas causer quand j'ai peur. »«
Là, quand je disais qu'il a peur. »«
Et de quoi as-tu peur, Jeannot ?» demanda l'homme.
« Mais j'ai peur de votre cheval qui court à tout briser. J'ai peur de vous aussi. Est-ce que je sais qui vous êtes ?»«
Comment ? Polisson, vaurien, j'ai la bonté de te ramasser sur la route et tu oses me faire entendre que je suis un mauvais garnement, un voleur, un assassin peut-être ?
Ben, si ce n'était ton camarade, je te flanquerais dehors et je te laisserais faire ta route à pied. »«
Oh, monsieur, dit Jean, pardonnez-lui. » Il ne sait pas ce qu'il dit quand il a peur. C'est une nature comme ça, il s'effraie de tout et tout lui déplaît.
Ah bah alors, c'est pas une nature comme la tienne. Toi, Jean, tu me fais l'effet d'être un brave garçon.
Dame, monsieur, je suis comme le bon Dieu m'a créé, comme maman m'a élevé. Je n'ai pas de mérite, assurément. Le pauvre Jeannot, monsieur, il est un peu en dessous, un peu timide, parce qu'il a perdu sa mère qui était ma tante. C'est ça qui l'a aigri.
Tant pis pour lui, dit l'homme. Je ne veux seulement pas le regarder. Oh, son visage pleurard n'est pas agréable à l'œil, ni doux au cœur. Quant à ce que disait ce polisson qu'il ne savait pas qui j'étais, je m'en vais te le dire, moi. Je suis un fermier d'auprès de Sainte-Anne. Je vais à Vannes pour acheter des porcs et je m'appelle Kersac. K-E-R-S-A-C.
Merci, monsieur Kersac, dit Jean. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré. C'est une journée de route que vous nous avez épargnée.
Mais j'y pense. Je peux faire mieux que ça, dit monsieur Kersac. Je passe 2 heures à Vannes. J'en repars vers 5 heures pour aller à 6 lieues plus loin, 24 kilomètres, à Malansac, M-A-L-A-N-S-A-C. Je peux vous mener jusque-là. Ce sera encore une journée de sauvée. Nous serons avant 8 heures à Malansac, où je couche. Pour le coup, mon cheval aura fait ses 12 lieues, ses 48 kilomètres, et bien gagné son avoine.
Oh, merci bien, monsieur. Si nous faisions souvent des rencontres comme celle d'aujourd'hui, nous ne tarderions pas à arriver à Paris.
Remercie donc, Jeannot.
Laisse-le tranquille, dit Kersac. Est-ce que j'ai besoin de son remerciement ? C'est pour toi ce que je fais, ce n'est pas pour lui.
Jean eut beau faire des signes à Jeannot, il ne put en obtenir une parole. Kersac s'apercevait, sans en avoir l'air, du manège de Jean et de son air inquiet. Il souriait et s'amusait à exciter les supplications muettes de Jean en se retournant de temps en temps et en lançant à Jeannot des regards mécontents. Jean croyait découvrir de la colère dans les yeux menaçants de Kersac. Il s'efforça de la détourner par des observations aimables sur la beauté du cheval qui était bon, mais pas beau. Ensuite sur la douceur de la carriole qui les secouait comme un panier à salade et sur les charmes de la route qui était une plaine aride. Plus Kersac s'amusait des efforts visibles du pauvre Jean pour conjurer l'orage qu'il redoutait pour Jeannot, plus ses yeux devenaient terribles, plus ses lèvres se contractaient, plus son front se plissait. Ses sourcils se fronçaient, sa bouche prenait un aspect presque féroce, sa main dégagée des rênes se crispait. Enfin, il arrêta son cheval et se retourna vers Jeannot. Le visage de Jean exprima la consternation, celui de Jeannot la frayeur. Après quelques minutes d'immobilité, pendant lesquelles le cheval reprenait haleine, Kersak, voyant la terreur visible de Jeannot et l'inquiétude croissante de Jean, s'adressa à Jeannot d'une voix formidable.
« Jeannot, tu es un petit gredin. Tu vois les supplications de ton cousin qui redoute pour toi ce qui va t'arriver, des coups de fouet. Tu t'entêtes à ne pas lui accorder les excuses qu'il te demande de m'adresser. Je te dis à mon tour que tu vas tout de suite nous demander pardon de ta maussaderie ou bien... Allons, à genoux dans la carriole. Et un pardon bien prononcé. »
Jeannot ne bougea pas. Kersak leva son fouet. Jean lui demanda grâce pour son cousin. Mais Kersak, indigné de l'obstination de Jeannot, lui appliqua un léger coup de fouet sur les épaules. Jeannot poussa un cri « Aïe !» Kersak frappa un second coup. Jeannot n'attendit pas le troisième. Il se jeta à genoux, cria « Pardon !» de toute la force de ses poumons. « À la bonne heure !» dit Kersak, en se remettant en face de son cheval et en le faisant partir. « Et toi, mon pauvre garçon, ajouta-t-il en s'adressant à Jean et en reprenant sa voix calme, ne t'afflige pas. Ce vaurien a besoin d'avoir les épaules un peu caressées par le fouet. Tant que nous serons ensemble, je le rendrai docile, sinon aimable. » Jean ne répondit pas. Il avait eu peur pour Jeannot et il craignait que ce dernier n'excitât encore la colère de Kersak. Quant à Jeannot, il faisait comme d'habitude des réflexions douloureuses sur le guignon qui le poursuivait et sur la bonne chance de Jean. On arriva ainsi à Vannes. Kersak dételât son cheval, Jean lui offrit de le mener à l'écurie et de lui donner son avoine et de le bouchonner. Le bouchonner, c'est de dire le frotter avec une poignée de paille, on dit un bouchon de paille, pour... Le sécher de la sueur qu'il a sur le corps, comme toi, quand tu transpires, tu t'essuies le front avec ton mouchoir. « Tu sais bouchonner un cheval, toi ?» dit Kersak. « Je crois bien, monsieur. J'en ai bouchonné plus d'un à l'auberge de Quérentré. Très bien, mon garçon, tu me rendras service, car je suis pressé d'aller à mes affaires pour les ports. Attends-moi ici. Je serai de retour dans 2 heures, et après l'avoine, tu feras boire mon cheval. » « Oui, oui, monsieur, je sais bien. Et du foin après avoir bu, » dit Jean. « C'est ça, » dit Kersak. « Au revoir. » Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 37, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur. Change de cassette. Mais laisse d'abord celle-ci se dérouler jusqu'au bout.